breath, look around. VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du jeudi 15 octobre 2015. Éric Manirakiza et Morgane Diriac au micro. Au sommaire ce soir.
État d'urgence dans la région de Diffa au Niger, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram.
Yaoundé et Abuja se félicitent de l'envoi de soldats américains au Cameroun pour appuyer la lutte contre les islamistes nigérians.
Appel au dialogue en Guinée pour éviter les violences post-électorales.
On va au dialogue pour d'abord dire ce qui n'a pas été bien fait et voir comment est-ce qu'on peut le corriger sans remettre en cause la stabilité, la paix et la quiétude sociale.
Le politologue guinéen Kouressi Kondé.
Le président Obama annonce un ralentissement du retrait et des troupes américaines d'Afghanistan.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le Niger a imposé l'état d'urgence dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Nigeria. Selon les statistiques publiées vendredi dernier par les Nations Unies, la région de Diffa a été le théâtre d'au moins 57 attaques depuis février. Pour le ministre nigérien de l'Intérieur, ce n'est qu'une reconduction des mesures arrêtées il y a plus d'un an.
En réalité, c'est juste des mesures administratives qui permettent une meilleure lutte contre les criminels de Boko Haram. Donc, c'est pas nouveau, c'est une reconduction de l'état d'urgence. La mesure principale, en réalité, c'est la possibilité pour le gouverneur d'ordonner des perquisitions sans demander l'autorisation de la justice. C'est tout ce que ça contient, c'est pas plus que ça. Et d'autres mesures limitatives que nous n'appliquons pas, d'ailleurs. Bon, c'est juste là pour donner beaucoup de flexibilité aux forces de l'ordre pour intervenir de manière plus efficace en cas de besoin. Mais l'état d'urgence ne change pas la vie normale des populations et au demeurant, les populations soutiennent cet état d'urgence-là. Donc il s'agit d'une reconduction pour être plus efficace.
C'était donc le ministre nigérien de l'Intérieur.
En Guinée, les premiers résultats partiels du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche sont contestés par l'opposition. Le président Alpha Condé était nettement en tête de ces résultats provisoires, les tout premiers proclamés hier soir par la Commission électorale nationale indépendante. Le candidat et chef de l'opposition, Sélou Diallo, a annoncé par la voix de son porte-parole mettre un terme définitif à sa participation au processus électoral. Jacques Aristide.
Les résultats tombent au compte-gouttes et avant même la publication des premiers résultats partiels hier soir, l'opposition guinéenne a crié à la fraude. L'AFP rapporte que sur environ un quart des 6 millions d'électeurs, soit 10 préfectures sur 38, 3 des 5 communes de Conakry et l'essentiel du vote des Guinéens de l'étranger, le président Condé était largement en tête devant son principal rival Diallo qui distançait lui-même très nettement les 6 autres candidats. Les résultats globaux de ce premier tour ne devraient pas être connus avant la fin de la semaine, ou plutôt d'après la commission électorale.
Jacques Aristide, arrestation d'une vingtaine de ressortissants de la République du Congo à Paris ce jeudi, c'est le Congo-Brazza. Les personnes arrêtées s'étaient introduites dans l'ambassade congolaise dans la capitale française lors d'une manifestation contre la modification constitutionnelle envisagée dans leur pays. Les détails avec Eddy Issangou.
Selon une source policière à Paris citée par l'AFP, les policiers sont intervenus sur réquisition écrite de l'ambassadeur du Congo à Paris et ont arrêté les manifestants. La raison de la manifestation, explique un des manifestants, était d'exiger l'annulation du référendum constitutionnel que le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, a convoqué pour le 25 octobre et qui lui permettrait de briguer un autre mandat. Pour l'ambassade congolaise, il ne s'agissait pas d'opposants, mais des combattants venus faire la casse. La constitution actuelle limite à 2 le nombre de mandats que peut exercer un chef de l'État et à 70 ans l'âge maximal pour être candidat à la magistrature suprême. L'opposition congolaise a dénoncé les référendums comme un coup d'État constitutionnel. Elle suspecte M. Sassou Nguesso de vouloir briguer un troisième mandat.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, réclame une enquête sur la mort de 9 civils, dont un employé de l'Organisation internationale pour les migrations et de 2 policiers, mardi à Bujumbura, dans des échanges de tirs intenses dans plusieurs quartiers de la capitale burundaise.
Et trois militaires des forces spéciales françaises déployés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane ont été blessés cette semaine par une mine, a révélé jeudi le ministère français de la Défense. Et 9 soldats français sont morts en combat au Mali dans ces opérations, le dernier en juillet 2014 dans un attentat suicide.
La bousculade du 24 septembre lors du pèlerinage de la Mecque a causé la mort de 61 Sénégalais, selon un nouveau bilan des autorités qui fait également état de 2 disparus parmi ses ressortissants.
Et en Côte d'Ivoire, certains candidats n'ont pas besoin de développer leur projet politique. Le candidat du parti de l'ex-président Pascal Affinguessan, un des favoris de la présidentielle du 25 octobre, tente de rallier les supporters de son ancien mentor en promettant de le libérer. Si tu veux que Laurent Gbagbo soit libéré, eh bien, votez Affi.
En République démocratique du Congo, le consensus semble être de mise sur la nécessité de trouver rapidement un remplaçant au président de la commission chargée d'organiser les élections. C'est pour sauver ce qui peut l'être du processus devant reconduire à la présidentielle de 2016.
Et les médias kenyans ont accueilli avec consternation jeudi l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi qui pourrait valoir aux journalistes de lourdes amendes ou une peine de prison s'ils sont reconnus coupables d'avoir diffamé le Parlement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les forces israéliennes étaient déployées massivement aujourd'hui à Jérusalem, en proie à des attentats désormais quotidiens. L'appel à l'armée est supposé contribuer à endiguer les violences qui réveillent le spectre de l'intifada et rassurer une population en état d'alarme désormais permanent. Par ailleurs, Israël a publié la photo d'un adolescent palestinien qui, selon le président Mahmoud Abbas, aurait été exécuté par les soldats israéliens. Idrissa Seydoudia.
Ahmed Mansara, 13 ans, était impliqué dans une attaque à l'arme blanche qui a blessé 2 Israéliens lundi à Jérusalem. Sa photo a été publiée par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour apporter, c'est évident, un démenti aux propos du président palestinien qui accusait les Israéliens de tuer de sang-froid les enfants palestiniens. On voit Mansara à l'hôpital, assis dans son lit. Monsieur Netanyahou avait déjà accusé Mahmoud Abbas de faire des déclarations incendiaires qui ont incité les Palestiniens à se lancer dans des attaques à l'arme blanche et à tirer sur les Israéliens. Au moins 7 Israéliens ont été tués et plusieurs blessés. Le bilan côté palestinien est de 31 morts. Cette nouvelle flambée de violence a commencé il y a un mois environ, suite à des rumeurs dans les quartiers arabes selon lesquelles Israël envisageait de prendre la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint de l'islam que les Juifs, eux, appellent le mont du Temple. Israël a démenti vigoureusement et accusé Hamas, l'autorité palestinienne et un groupe appelé Mouvement islamique de répandre de fausses rumeurs pour inciter à l'émeute.
Lutte contre les djihadistes du groupe État islamique en Irak. Les forces irakiennes ont attaqué les insurgés sur 2 principaux fronts dans le cadre d'une vaste offensive pour reprendre Ramadi et Baïch.
Le régime syrien a élargi son offensive dans le centre de la Syrie. L'armée, appuyée par l'aviation russe, les miliciens pro-régime, le Hezbollah libanais et des combattants iraniens, a annoncé la prise d'un village au nord de Homs et de 2 autres dans la province de Hama. Par ailleurs, la Russie a créé une ligne directe avec Tel Aviv pour éviter des incidents avec l'aviation israélienne dans l'espace aérien syrien.
Et des milliers de soldats américains resteront déployés en Afghanistan au-delà de 2016. C'est ce qu'a annoncé Barack Obama, prolongeant ainsi une intervention militaire qui a débuté il y a 14 ans. Le président américain estime que les forces afghanes ne sont pas encore assez fortes pour assurer la stabilité du pays. Et d'après lui, une pause dans le calendrier de retrait des forces américaines peut faire une vraie différence.
Sommet sur la crise migratoire en Europe, réuni à Bruxelles, les dirigeants européens estiment que la Turquie doit s'engager à tarir le flux de migrants vers l'Europe. En échange, les Européens doivent aider Ankara à prendre soin des réfugiés et à mieux surveiller ses frontières, a insisté la chancelière allemande Angela Merkel. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Michel Joseph.
L'accès des jeunes aux postes de travail est souvent freiné au Sénégal par le manque de transparence et de visibilité sur les offres d'emploi, a soutenu mercredi à Dakar Ndeye Fatou Ndiaye, membre d'un portail sénégalais pour l'emploi, au cours d'une conférence sur l'employabilité des jeunes. Selon elle, il est constaté tous les jours que les jeunes candidats à l'emploi ne sont parfois pas suffisamment armés dans leur recherche d'emploi, rapporte l'agence APA. D'autre part, un bateau de pêche transportant plus de 40 tonnes de poissons et d'autres crustacés, surpris en flagrant délit de pêche dans une zone interdite, a été arraisonné au large de l'océan Atlantique et ramené sous bonne escorte par la marine camerounaise au port de Douala. Ce bateau, affrété par une entreprise étrangère avec un relais local, a été interpellé hier au large de la côte atlantique dans la région du Sud-Ouest. Le Burkina Faso bénéficiera d'un appui d'environ 8,1 milliards de francs CFA du Fonds africain de développement. Ce financement vise à contribuer à une croissance économique forte et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. La date limite à laquelle l'État fédéral américain peut se financer sans risquer le défaut de paiement se rapproche et le Trésor américain a de nouveau pressé le Congrès jeudi de relever le plafond de la dette. Laisser le gouvernement des États-Unis fonctionner dans la capacité d'emprunter serait profondément irresponsable, a affirmé le secrétaire américain au Trésor, Jacob Lew, dans une lettre au Congrès.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Michel Joseph.
Voilà, c'est parti avec votre page sportive avec Dili. Bonsoir Dili.
Bonsoir Eric, comment ça va?
Ça va très bien. Football avec cette défection de plusieurs footballeurs érythréens qui ont demandé l'asile politique au Botswana.
Oui, tout à fait. 10 des joueurs de la sélection érythréenne ayant affronté le Botswana en match de qualification pour la Coupe du Monde de 2018, match qu'ils ont perdu d'ailleurs 3-1, ont refusé de monter à bord de l'avion qui les ramenait chez eux, expliquant qu'ils demandaient l'asile politique. Ceci a été déclaré par Dick Bayford, avocat représentant le mouvement érythréen pour la démocratie et les droits de l'homme, basé à Pretoria, en Afrique du Sud. La majorité de ces joueurs ayant demandé l'asile au Botswana font partie de l'armée érythréenne. Et s'ils sont renvoyés chez eux, ils seront inculpés pour trahison et tués ou emprisonnés, a affirmé pour sa part Adan Gebremestrel, membre du mouvement.
Dili, peut-être qu'ils ont perdu le match, ils ont peur des représailles.
Oui, ça pourrait être une des options plausibles.
Oui, et à la FIFA, le Camerounais Issa Hayatou a pris ce matin à Zurich son poste de président par intérim.
Oui, tout à fait. Âgé de 69 ans, le président de la Confédération africaine de football a été désigné à ce poste jeudi après la suspension de 90 jours de Joseph Blatter, cette suspension a été prononcée par la commission d'éthique de la FIFA.
Dili, quelle sera sa priorité immédiate?
Alors, la priorité immédiate n'est pas définie pour l'instant, mais la question qui se pose, c'est l'élection à la présidence de la FIFA. Donc, elle ne fait pas directement partie de l'agenda de cette réunion, mais il n'est pas exclu qu'elle soit abordée. Pour l'heure, donc, l'élection devrait se tenir le 26 février. Deux candidats ont déposé leur candidature à ce jour. Le patron de l'UEFA, Michel Platini, suspendu pour 90 jours lui aussi, et le prince jordanien Ali.
Et l'UEFA se réunit ce jeudi à Nyon et Platini devrait savoir davantage son sort.
Tout à fait, le Français pourra en effet savoir s'il bénéficie encore du soutien des 54 fédérations de l'UEFA, certaines ayant émis des réserves à son sujet.
Merci à Dili pour les sports.
Merci Eric.
Et je rappelle que les sports, on en a tous les lundis dans Sporama avec bien souvent Nicolas Pinault et d'autres voix, Bagay Sikoura.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Eric, la Guinée.
Justement, en Guinée, la CENI devrait proclamer demain vendredi les résultats de la présidentielle de dimanche dernier. L'opposition exige l'annulation de ce scrutin et menace de descendre dans les rues pour protester. Cependant, nombreux dans le pays sont ceux qui appellent les acteurs politiques au dialogue pour éviter de nouvelles violences post-électorales. Le dialogue souhaité par les Guinéens est-il possible? Nous avons joint à Conakry un acteur de la société civile, le politologue Kouressi Kondé.
Le dialogue est toujours possible dans la mesure où les populations guinéennes, d'une manière générale, ont exprimé une volonté de tolérance et ils ont voté massivement dans la paix et dans la convivialité. Ceci dit, c'est un droit politique pour chacun des candidats ou chaque parti politique de dire nous ne sommes pas d'accord, nous allons protester, nous allons manifester. Mais le chef de file de l'opposition, en l'occurrence, a précisé que cela se fera dans la légalité. Donc à partir de ce moment-là, il appartient à tous les acteurs non étatiques, à toute la société civile guinéenne, de développer des initiatives de paix, d'aller vers les acteurs et les appeler à plus de retenue et aussi interpeller les institutions directement concernées par la gestion du processus électoral de prendre toutes leurs responsabilités, de faire valoir leur crédibilité et leurs compétences.
Sur quoi le dialogue devrait-il se pencher?
Premièrement, sur les leçons à tirer des résultats qui seront proclamés provisoirement demain sur les questions qui posent problème, les questions qui fâchent. Il faut avoir le courage, il faut avoir le sang-froid d'aller vers chacun des candidats et tenir compte du fait que la Guinée, le tissu social est très fragile, l'édifice est très fragile, nous sommes composés naturellement de 4 régions et malheureusement, la configuration politique est très proche de la configuration ethnique. On va au dialogue pour d'abord dire ce qui n'a pas été bien fait et voir comment est-ce qu'on peut le corriger sans remettre en cause l'essentiel. C'est-à-dire que la stabilité, la paix et la quiétude sociale. Et ceci dit, est-ce qu'il faut remettre en cause tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accepté par l'opposition, par la mouvance, d'un accord à l'autre, d'un dialogue à l'autre, et qu'on puisse remettre tout cela en cause à quelques heures de la proclamation des résultats, cela me paraît excessivement difficile.
Le politologue Kouressi Kondé.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Yaoundé et Abuja se félicitent de la décision du président Barack Obama d'envoyer quelque 300 militaires américains au Cameroun en appui à la lutte contre les islamistes nigérians de Boko Haram. Et ces soldats américains envoyés aux opérations de surveillance aérienne et de collecte de renseignements n'auront pas de mission de combat. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Yaoundé le ministre camerounais de la communication, porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakary.
Le président bien en son temps avait dit que la menace globale, réaction globale. Lors de la rencontre de Paris, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait beaucoup de pays de par le monde qui avaient pris l'engagement de soutenir les 5 pays de la ligne de front. Et parmi ces pays, il y avait les États-Unis au premier plan, l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, le Canada et la Chine. La réaction des États-Unis aujourd'hui nous conforte. Nous fait énormément plaisir, atteste de l'excellence des relations entre le Cameroun et les États-Unis. Et dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, le Cameroun et les États-Unis conjuguent leurs efforts, évidemment, chacun à hauteur de sa puissance et de sa capacité.
Les soldats américains seront armés pour leur sécurité, mais ne seront pas directement impliqués dans les combats. Comment voyez-vous leur impact sur le terrain?
Les États-Unis nous apportent exactement ce dont nous avons besoin, mais que nous n'avons pas, à savoir l'information juste qui nous permette de poser des actes là où il faut, avec une efficacité extraordinaire, voire redoutable. Les experts américains vont partager leur savoir avec nos soldats. Les experts américains vont certainement travailler avec leurs drones avec un système d'intelligence pour récolter les informations partout où ils se trouvent, afin de les mettre à la disposition des forces multinationales, en général et en particulier des forces de défense et de sécurité du Cameroun.
Le ministre camerounais de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakary.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Lutte contre Boko Haram toujours. Le ministre tchadien de la Sécurité publique de l'Immigration a fait une communication ce jeudi à la Direction générale de la Police nationale. Communication axée sur deux points, à savoir les rafles des femmes qui portent la burqa et la marche pacifique des organisations des personnes handicapées violemment réprimées ce jeudi matin en N'Djamena par la Police nationale. La correspondance est signée André Kodmajingar.
La loi portant répression des actes de terrorisme en République du Tchad adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet 2015 a fait déjà les premières victimes. Plus de 60 femmes sont arrêtées ce mercredi 14 octobre dans la ville de N'Djamena et présentées à la presse ce jeudi parce qu'elles ont porté la burqa. Ces femmes doivent payer une amende de 100 000 francs CFA chacune au profit du trésor public. Pour le ministre de la Sécurité publique, le gouvernement va passer à une vitesse supérieure. Ahmad Mahamad Bachir.
Le burqa qui consiste à fermer tous les visages est interdit pour la journée d'hier simplement. Ce sont deux femmes habillées en burqa. Et pourtant ces femmes-là ne sont pas tombées du ciel. Même les responsables qui travaillent avec nous, ils ont, si ce n'est pas leur épouse, c'est leur proche. Et curieusement, ils se permettent de venir demander une intervention. La prochaine fois, elle et leurs proches, surtout si c'est un responsable, il nous trouvera sur son chemin. Parce que lui-même, il devient hors la loi. On passera à une vitesse supérieure. La loi antiterroriste, elle est là. Tous ceux qui ne respectent pas cette mesure seront considérés désormais comme des terroristes ou des complices de terroristes.
Les organisations des personnes handicapées et déficiences auditives qui voulaient organiser une marche pacifique ce jeudi pour exiger le décret d'application de la loi portant protection des personnes handicapées et la ratification de la Convention des Nations Unies en faveur des personnes handicapées ont appris à leurs dépens. La manifestation a été sévèrement réprimée par la police nationale parce qu'elle n'a pas été autorisée. Pour le ministre de la Sécurité publique, ces personnes handicapées sont manipulées par les hommes politiques.
Ces handicapés m'ont écrit demandant une autorisation de manifester dans la rue. J'ai dit à GDGPN non, 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 informer les intéressés. Ces handicapés font des slogans. 8 ans d'attente, trop c'est trop. Et pour endormir les gens de vous, ils parlent d'un décret d'application de quoi je sais. C'est des compatriotes instrumentalisés, manipulés par des politicards à petits pieds. Ces politicards à petits pieds, pourquoi eux ne sortent pas dans la rue?
Le président de l'association d'entraide des personnes handicapées physiques, Baila Sam Gérard, s'est dit surpris que la police nationale réprime une manifestation pacifique dans un état de droit.
Nous sommes dans un pays de démocratie et la démocratie donne le droit à ses citoyens d'organiser des marches quand ils ne sont pas du tout contents. Et nous sommes vraiment surpris par le comportement de la police. Nous n'allons pas baisser les mains, donc nous leur donnons rendez-vous 2 semaines plus tard pour qu'ils puissent encore revenir pour nous massacrer.
André Kodmajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le Burkina Faso commémore aujourd'hui le 28e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. C'était le 15 octobre 1987. Il a été tué avec 12 de ses compagnons. La commémoration de cette année revêt des caractères particuliers. C'est la première après la chute de Blaise Compaoré, son tombeur. La première sans les corps des suppliciés toujours entre les mains de la justice pour analyse de l'ADN. Thomas Sankara reste toujours la mémoire vivante, surtout dans la jeunesse qui ne l'a jamais connu de son vivant. Reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
D'habitude, le 15 octobre, le cimetière de Dagnoué où reposaient les corps de Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune connaissait une effervescence. Mais cette année, quand nous y avons fait un tour, c'était le calme plat. Nous avons rencontré des jeunes du voisinage du cimetière. Voici ce qu'ils ont dit sur le capitaine Thomas Sankara.
Mambo Isaka, étudiant en sciences, économie et de gestion, Université de Ouagadougou. Sincèrement, je pense qu'avec Thomas Sankara, le Burkina en tout cas, aujourd'hui là, on est en tout cas placé parmi les grands pays aussi, du monde même.
Je m'appelle Kabri Abdulaziz, élève en classe de 4e. Non, on n'a pas connu Thomas Sankara. Il disait la vérité, il ne mentait pas contre Blaise Compaoré. Il a été tué, ça me fait mal.
Adama Mamboué, sciences économiques et gestion. À vrai dire, on ne l'a pas connu comme ça, mais on a entendu parler de lui en tout cas. En bien, on a entendu parler de ce qu'il faisait pour le Burkina Faso et même en général pour l'Afrique. Par rapport à ce que j'ai entendu, je sais qu'en tout cas, s'il était là, qu'il continuait de suite, là, et sur cette même voie, je sais qu'il
n'y a rien. Comment expliquer que des jeunes nés après la mort de Thomas Sankara lui vouent un tel amour, frisant l'adoration? Maître Benewende Sankara, avocat de la famille.
Sans l'avoir connu, le président Sankara est porté par cette jeunesse tout simplement parce que la jeunesse burkinabé a été émancipée, a été conscientisée de par les actions menées par des partis comme l'UNIL-PS à la faveur de l'insurrection populaire. L'image du président Sankara a refait surface et a été effectivement portée par toute cette jeunesse qui a cru en l'idéal de l'homme, qui a cru en l'exemple de l'homme, comment il s'est battu pour libérer le Burkina Faso.
Et sur ce qu'il pense de ce 28e anniversaire qui constitue le premier de l'après Blaise Compaoré, voici ce que Maître Benewende Sankara nous a confié.
La commémoration se fait sur fond d'espoir, comme la veuve du président Sankara l'a dit, et les attentes des Burkinabés, ce serait que le président Sankara, dont les restes sont aujourd'hui entre les mains de justice, puisse enfin être enseveli, réunimé avec tous les honneurs dus à son rang de héros national.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, un rappel des grands titres de l'actualité aujourd'hui. Le Niger a imposé l'état d'urgence dans la région de Difa, dans le sud, près de la frontière avec le Nigeria.
Et en Guinée, les premiers résultats partiels du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche sont contestés par l'opposition. Le président Alpha Condé était nettement en tête de ces résultats provisoires. Les tout premiers proclamés hier soir par la Commission électorale nationale indépendante CENI.
Arrestation d'une vingtaine de ressortissants de la République du Congo à Paris ce jeudi. Les personnes arrêtées s'étaient introduites dans l'ambassade congolaise dans la capitale française lors d'une manifestation contre la modification constitutionnelle envisagée dans leur pays.
Et aujourd'hui, c'est la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. La mémoire vive dans la jeunesse burkinabé.
Le secrétaire général de l'ONU réclame une enquête sur la mort de 9 civils, dont une employée de l'Organisation internationale pour les migrations et de 2 policiers, mardi à Bujumbura, dans des échanges de tirs intenses dans plusieurs quartiers de la capitale burundaise.
Et la bousculade du 24 septembre lors du pèlerinage de la Mecque a causé la mort de 61 Sénégalais, selon un nouveau bilan du Sénégal, qui fait également état de 2 disparus parmi ses ressortissants.
Sachez aussi que 3 militaires des forces spéciales françaises déployés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane ont été blessés cette semaine par une mine. C'est ce qu'a révélé le ministère français de la Défense.
Et en Côte d'Ivoire, certains candidats n'ont pas besoin de développer leur projet politique. Le candidat du parti de l'ex-président Pascal Affinguessant, un des favoris, a développé un slogan « Si tu veux que Laurent Gbagbo soit libéré, va voter Affi ».
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Elvin Sangano, présentation Morgane Guiriec et Eric Menirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.